Bonjour dans Autour de nous, le podcast de l'économie circulaire en action. Je suis votre hôte, Christina Tavares de Bastos, et je suis ravie de vous présenter les idées, les innovations et les pratiques qui sont en train de transformer notre économie vers un modèle plus inclusif, durable et circulaire. Nous espérons que ce podcast vous inspirera à réfléchir à votre propre rôle dans la construction d'un avenir plus juste et durable, et que vous trouverez des idées et des solutions pratiques pour agir autour de vous. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'avoir avec moi Singhal Dépéry, cofondateur d'Idées Genève Watches, la première marque de montres de luxe à impact natif. En d'autres termes, Idées Genève est la première entreprise dans son secteur dont la mission sociale et environnementale est intégrée dès le départ de manière centrale dans son modèle d'affaires. Singhal est designer industriel tessinois. Il passe son enfance dans les montagnes de la vallée d'Ansernone, à la lumière des bougies, loin de la civilisation. Sa pratique professionnelle s'étend du design horloger à l'architecture urbaine. Il privilégie une approche centrée sur les méthodes de fabrication et de traitement artisanal authentique. Il attache par ailleurs une grande importance dans sa vie comme dans son travail au respect des métiers traditionnels et des méthodes de vie respectueuses, des valeurs qui lui ont été transmises dès son plus jeune âge. Singhal, merci beaucoup de nous accueillir dans ton studio aujourd'hui et de participer à notre podcast.
Bonjour. Je suis trop content de vous avoir ici pour parler un petit peu d'Idées Genève, pour parler un peu des premières expériences, de toutes les premières étapes qu'on a eues, qui ont fait en fait en sorte qu'on a créé cette marque.
Je dois dire que quand j'ai lu dans ta biographie que tu avais passé ton enfance loin de la civilisation à la lumière des bougies, moi qui ai passé mon enfance au centre-ville avec la frénésie que cela implique, je me suis mise à rêver à cette enfance si différente de la mienne. Et j'aimerais en savoir un peu plus.
Effectivement, moi, j'ai grandi au Tessin, dans les Alpes tessinoises, dans cette petite vallée très sauvage, la vallée d'Ansernone. On arrive avec une voiture ou avec le car postal, on laisse le goudron derrière soi et puis on marche pendant 20 minutes pour arriver chez moi, ou là où j'ai grandi. C'est quelque chose qui, aujourd'hui, m'apporte énormément. Dans un premier temps, j'ai grandi, les premières années de vie, tu les fais dans, en fait, ton terrain de jeu, c'est la nature. J'ai après grandi, commencé à aller à l'école. Et puis, j'ai eu une petite phase aussi entre mes, je pense, 8 ans et puis 14 ans où j'étais un peu gêné d'habiter là-haut. Parce que j'étais le seul, par exemple, qui arrivait à l'école avec des bottes de pluie ou bien j'avais pas de télé jusqu'à mes, je crois, 18 ans, presque, 17 ans, j'ai pas eu de télé. Et puis, j'avais pas exactement les mêmes jeux que les autres enfants. Et puis, j'ai eu aussi un moment de solitude quand j'ai dû amener ma première copine sur la montagne, parce que je ne savais pas trop comment elle réagirait, mais elle avait adoré. Du coup, ça m'a assez vite après aussi montré en fait, que même en étant différent ou en ayant d'autres accès à autre chose dans la vie, en fait, il y a des choses que les gens peuvent aussi leur plaire. En grandissant, j'ai repris un peu confiance et puis foi dans cette vie-là. Et puis aujourd'hui, j'adore tout ce que ça m'a donné. En fait, aujourd'hui, je peux vraiment voir et puis ressentir ce que ça m'avait donné. Et puis, en vivant en plus en ville, c'est un décalage avec la ville que je vis aujourd'hui, mais que j'apprécie aussi pour d'autres choses. J'aime bien le mélange des deux aujourd'hui.
Je rebondis un petit peu sur ce que tu m'as dit tout à l'heure pendant qu'on prenait le café. Je te parlais de la façon dont je bois le café qui est très atypique par rapport à ici. Et toi, tu m'as dit, tu sais, j'ai grandi... avec les gens du théâtre Dimitri, et puis chaque culture, chaque pays a sa façon de boire le café différente, et je trouve ça fascinant. Du coup, je me dis, est-ce que, ok, tu étais éloigné de la ville, et puis tu étais différent, mais en même temps, j'ai l'impression que tu as une ouverture au monde et aux autres cultures qui n'était pas habituelle pour des enfants.
Oui, effectivement, j'avais de la chance, mes parents, ils ont travaillé les deux, comme la technique du théâtre Dimitri. Du coup, j'avais aussi accès à beaucoup de cultures différentes. Ça amenait à chacun un petit peu de quelque chose de son pays. Et puis, c'était un voyage à chaque fois, c'est vrai. Et puis aussi à travers les spectacles, évidemment. Mais ça faisait vraiment partie de ma vie. Je ne me posais pas trop de questions.
C'est ça qui est beau avec l'enfance, on ne se pose pas de questions. Alors maintenant, on va revenir à la ville, justement. Toi, tu as fait un bachelor en design industriel à l'ECAL, à l'École cantonale d'art de Lausanne. Et après cela, tu fondes avec Sophie Dépéry, qui est ta compagne de vie, et ton ami Olivier Burgisser, l'atelier Life Goods à Lausanne. Votre aventure va durer 6 ans. J'aimerais que tu me dises comment tu es passé de la lampe AT-AT Walker aux montres de luxe circulaires.
Oui, on a lancé ce studio ensemble en sortant de l'école avec une envie de participer à ce monde du design. Moi, je suis un passionné du design de meubles. Et ça a été toujours quelque chose qui nous était très important pour nous de pouvoir avancer là-dedans. Et puis, par contre, il y a toujours très vite eu aussi le monde de la montre qui nous a accompagnés aussi parce que le papa de Sophie avait créé une marque de montre. Du coup, on a eu assez vite accès à ce domaine et puis on a commencé à faire du design pour cette marque comme designer indépendant. Et du coup, au fur et à mesure, c'était quand même ça qui a un peu pris plus de place dans nos vies. Et puis, j'ai réussi quand même à cette passion pour le design de meubles, à le retrouver aussi dans le design de montres. Effectivement, le design de meubles, pour moi, c'est quelque chose de très important aussi parce que ça m'a permis un petit peu de découvrir toute cette dimension un peu responsable aussi dans le design en lui-même. Comme avec des écoles comme Handoven ou bien des designers que j'apprécie encore plus aujourd'hui qu'à l'époque, mais que j'adore, c'est les frères Campana, par exemple, du Brésil. Et puis, tous ces éléments-là ont participé, je pense, à ce qu'ils dégénèrent, en tout cas au niveau design, et puis de ce qu'on raconte aujourd'hui.
Puisque tu parles d'idées Genève, on va sauter dans le vif du sujet. Donc, Nicolas Freudiger, Cédric Mulhauser et toi, vous avez créé Idées Genève en 2020. Nicolas et Cédric sont amis d'enfance. Nicolas est passionné d'horlogerie, Cédric est horloger. Toi, tu conçois des montres pour l'horlogerie suisse. Il est clair que vous n'allez pas créer une marque de basket. La question pour moi, elle est, quelle a été votre démarche pour en arriver à créer une entreprise dite circulaire, parce que vous n'êtes pas contenté de faire de l'éco-conception, vous avez vraiment intégré dans votre modèle d'entreprise tous les piliers de l'économie circulaire. Comment a germé cette idée et surtout, comment avez-vous réussi à la mettre en pratique?
Alors, c'est Nicolas qui est venu vers moi en me proposant de lancer une marque de montre. Avec Nicolas, on s'est connus en 2017. Il venait souvent à la foire de Bâle sur des stands et il passait en fait... Il utilisait ses vacances pour faire découvrir un peu les backstage du monde de la montre. Il m'a demandé si un jour ça me tenterait de lancer une marque. Puis j'ai dit, bah, évidemment, bah, toute personne qui est impliquée dans l'horlogerie aimerait bien un jour, en tout cas ça peut être un rêve très vite, hein, ça peut être une idée qui nous passe très vite par la tête de faire une marque de montre. Mais dans quel sens et comment, ça c'était la grande question. Après, il a continué à travailler chez Coca-Cola. 2 ans plus tard, on s'est revus à un festival de musique au milieu des montagnes dans le Valais. Et puis là, on en a reparlé. Et puis, du coup, on a décidé, lui, il a dit, OK, je vais arrêter mon travail. J'ai dit, bah, moi, je vais faire pareil. Et puis, il s'est lancé dans cette idée de, à un moment donné, trouver quelque chose qui ferait du sens pour nous. J'ai dit, avec Cédric et Nicolas, qu'est-ce qui fait du sens pour nous? Du coup, assez vite, on est tombé sur cette dimension d'impact, en fait, en horlogerie. On s'est posé des questions, mais qu'est-ce qu'on pourrait amener? Est-ce que c'est du recyclage? Est-ce que c'est du upcycling? Est-ce que c'est la deuxième vie d'un matériel, etc.? Il y avait plein de questions qui se posaient. On ne trouvait pas quelque chose de clair et puis de fort qui aurait pu regrouper le tout. Puis tout d'un coup, un jour, on est tombé sur l'économie circulaire. Et puis c'était effectivement, c'était le mot qui regroupait tous ces éléments pour créer une marque qui est responsable. Et puis puisqu'on était parti d'une feuille blanche, on a pu vraiment créer tout un écosystème pour être les déplacements, les matières premières qu'on utilise, comment elles sont conçues, les démonter, se poser beaucoup de questions, comment le site est hébergé, quels sont nos clients, etc. On a pu vraiment construire quelque chose qui est cohérent du début à la fin, de créer un écosystème complet autour de la marque et puis pas que d'un produit ou d'une partie du produit que... Et puis le produit, et puis d'ailleurs aussi, on le met sur nos cadrans, c'est inscrit Circular Swiss Made. C'est vraiment le reflet de cette dimension-là pour le mettre en avant et pour démontrer en fait l'intention et puis pas que le travail qui a été fait derrière cette marque. Et puis la montre, c'est un peu la matérialisation de ce travail en amont qui a été fait de recherche.
Tout à l'heure, tu m'as montré le graphique de votre écosystème. C'est assez incroyable. Vous êtes les premiers, donc tu as dit que vous êtes parti d'une feuille blanche. Et quand on part d'une feuille blanche, c'est extraordinaire, mais c'est aussi très effrayant. Il faut aussi savoir qu'est-ce qu'on va mettre dans notre feuille blanche. Et donc, vous êtes arrivé avec ce graphique. Combien de temps ça vous a mis pour arriver avec cet écosystème assez incroyable qui va de la naissance de votre produit jusqu'à la fin de vie?
C'est vrai qu'au début, on a beaucoup voyagé à travers le Jura avec Nicolas. On a été voir plein de sous-traitants, d'industriels, pour un peu comprendre là où on pourrait avoir un impact. Et puis, cet écosystème s'est construit au fur et à mesure de notre recherche qui a duré presque 2 ans, 1 an et demi avant 2020, avant de officialiser la marque. Et puis, oui, c'était très marrant parce qu'on voyageait dans le Jura, on allait voir des producteurs de montres ou de parties de montres. On posait la question s'il y avait des matières, des anciens cadrans, des anciennes boîtes qu'on pouvait réutiliser d'autres marques sans forcément dépublier les marques en elles-mêmes, mais pour pouvoir aller au bout de notre idée ou comment on pouvait avoir un impact sur la réutilisation de ces différentes matières, par exemple l'acier. Et bah, c'est vrai qu'au début, ils souriaient, ils rigolaient un petit peu en nous voyant débarquer avec notre démarche. Mais très vite, on a réussi à créer en fait un écosystème complet. On a été aussi épaulé par l'Impact Hub, par exemple, à Genève, qui nous a permis aussi d'avoir quelque chose de cohérent et puis de ne pas oublier des étapes. Et effectivement, aujourd'hui, ces mêmes industriels qu'on avait approchés qui souriaient, bah aujourd'hui, eux-mêmes, ils se sont mis à produire des matières alternatives, à creuser le sujet. Parce qu'en fait, c'est effectivement, il y a 4 ans en arrière ou 5 ans en arrière, c'était quelque chose, de toute façon, déjà le terme économie circulaire. Hein, moi, je le partageais avec des amis architectes et comme ça, ils ne savaient pas trop ce que c'était. Aujourd'hui, c'est une évidence pour plus. En tout cas, il y a plus de métiers qui connaissent cette dimension-là ou qui l'ont apprivoisé, même d'ailleurs, qui travaillent dans ce sens-là. Et puis aujourd'hui, un des piliers qu'on a réussi à obtenir avec Idées Genève qui nous font plus plaisir de voir qu'il y a l'industrie, en fait, qui prend quand même aussi part à cette aventure et puis qui commence à par eux-mêmes voir aussi du potentiel économique, parce que c'est très important qu'on puisse aussi faire un résultat et puis que ça puisse être rentable. Que ça puisse donner du travail. On travaille souvent avec des startups aussi, de l'EPFL ou d'autres, même à Londres. On a, pour le packaging, par exemple, en Alc, on a travaillé avec Notpla, qui est une startup qui fait plein de produits dérivés au niveau algues. Puis nous, on voulait absolument avoir un packaging qui ait le plus faible impact. Et là, on arrive avec un produit, par exemple, et là, on n'a que l'algue qui est compressée, puis on arrive à quelque chose qui est 100% sans impact, et puis qu'on peut même après, on peut l'utiliser par exemple pour ou le composter ou l'utiliser comme fertilisant pour les plantes. Parce qu'il faut toujours penser aussi à la deuxième vie des choses ou à la vie d'après d'un produit. Je pense qu'aujourd'hui, ça c'est très important dans l'industrie aussi. On est responsable de ce qu'on va laisser derrière nous. Du coup, il y a une fin et puis aussi un deuxième usage une fois qu'il est utilisé.
L'horlogerie de luxe se définit par la rareté, par une durée d'utilisation longue, par la qualité et donc par une économie de la matière. Par contre, la plupart des produits de l'horlogerie de luxe sont originaires de l'extraction minière, avec les impacts négatifs sur la terre, la biodiversité et les populations locales qui l'accompagnent. Alors vous, tu viens de le dire, vous avez l'économie circulaire dans l'ADN, vous produisez des montres 100% circulaires avec de l'acier inoxydable recyclé, collecté dans le Jura, des bracelets fabriqués avec des déchets verts, du packaging compostable. Donc vous êtes en train de révolutionner ou du moins de titiller le secteur de l'horlogerie, comme tu l'as si bien dit tout à l'heure, des gens qui vous riaient au nez il y a à peine 3 ans, maintenant ils sont en train de se dire « Ah, peut-être qu'on doit aussi être plus durable ». Donc, au-delà de cet effet, est-ce que tu sens qu'il y a quand même un changement qui s'opère dans le secteur, que ce soit dans les pratiques de consommation, donc des gens qui viennent vers vous et qui peut-être seraient allés ailleurs, et aussi justement d'autres entreprises qui commence à investir dans les matériaux durables. Là, vous avez aussi le soutien de Leonardo DiCaprio qui a choisi de soutenir votre marque sans que vous soyez allé le chercher. Votre marque incarne des valeurs de durabilité dont il se sent proche. Donc, je pense que tous ces éléments sont vraiment en train de bousculer le secteur. Du moins, je l'espère et c'est... Au-delà de ce que tu m'as déjà dit, est-ce que tu remarques un petit peu des changements?
C'est une bonne question. C'est très intéressant. Je pense qu'aujourd'hui, on a, comme dit avant, il y a 5 ans, on ne parlait pas d'économie circulaire. Aujourd'hui, c'est devenu quelque chose dont on parle même dans les médias. Je pense qu'on est sur une bonne voie. Est-ce qu'on va assez rapidement? Est-ce que dans le luxe, les changements vont pouvoir être assez efficaces? Moi, je pense que c'est un travail entre les entreprises, entre des jeunes startups qui donnent une autre vision, en fait, de l'économie aussi, parce qu'il faut à un moment donné que l'opinion publique, de toute façon, c'est l'opinion publique qui choisit à la fin. Puis je pense que ça, il ne faut pas sous-estimer l'importance. Et puis, celle-ci, par contre, elle peut être que changée ou bien adaptée si on a aussi une certaine culture ou bien connaissance de ce qui se passe. Et puis, du coup, des choses sont liées. Et puis, je pense que plus il y a d'exemples de marques qui peuvent montrer une autre dimension de travail et puis façon de travailler, plus l'opinion publique aussi peut adhérer à ça. Et de toute façon, l'économie dans l'ensemble va devoir s'adapter parce qu'à un moment donné, on vend ce que les clients ont envie d'acheter. Les clients achètent ce qu'ils ont envie de soutenir. Du coup, je pense que c'est des choses qui sont très fortement liées. Puis mettre cette dimension d'impact un peu au cœur de la production dans l'ensemble. Je pense que c'est quelque chose qui va venir de plus en plus, à juste titre. Après, évidemment, il y a du greenwashing, etc., qui est souvent aussi un danger pour, autant pour les marques qui font ça sérieusement, autant pour le client qui, tout d'un coup, sait plus comment se comporter devant ces différents produits. Oui, et puis pour ça, la transparence, je pense que c'est une bonne solution. Et puis, de voir des personnes fortes qui ont une autorité qui est très importante, qui sont déjà personnellement engagées dans cette dimension et puis pour défendre certaines valeurs, parce qu'on parle quand même aussi de valeurs, je pense que c'est très important pour accélérer en fait cette transition, puis le déroulement des matières, les chaînes de production comme ça. Il y a beaucoup de choses qui sont très logiques, qui peuvent même être moins impactantes au niveau prix si on les reformule. Et puis je pense que c'est là que ça devient intéressant. S'il y a des exemples qui sont concrets pour l'opinion publique, pour qu'ils puissent aussi influencer leurs propres achats par rapport à des critères qui sont clairs.
J'ai appris pas mal de choses. Par contre, je vais te poser quelques petites questions improvisées personnelles. Combien de montres as-tu ?
Moi, personnellement, moi, j'ai une montre que je porte. C'est un proto de la première série qu'on a fait. Non, peut-être que je dois avoir un Casio quelque part dans un faux tiroir, peut-être aussi. Mais non, j'ai une montre que je porte et puis qui, en fait, change tout le temps un peu d'aspect parce que je la teste, je teste plein de choses et puis elle porte déjà un petit peu une histoire.
On a plusieurs montres ici affichées dans ton studio. Quelle est ta montre préférée des déjeuners ?
Oula, ça c'est une question piège. Non, je pense que celle qui, je n'ai pas forcément de préférée, mais celle qui parle le plus de ce qu'on fait visuellement, je pense que c'est la dernière qu'on a fait en collaboration avec Compère. C'est le modèle en carbone où on arrive plus facilement à lire cette dimension derrière ID Genève, où on lit à travers le carbone, par exemple, cette dimension un peu plus de je ne sais pas si c'est recyclage, mais plutôt d'organique, en fait, qui parle bien de la dimension de ce qui est mis en œuvre par ID.
Et maintenant, la question la plus importante de tout cette interview, est-ce que tu as le numéro de téléphone de Leonardo DiCaprio?
Ça, il y a beaucoup de gens qui me demandent, mais malheureusement,
non.
on a quand même discuté avec Leonardo DiCaprio, on a mangé ensemble au début de l'aventure, en tout cas au début de l'entente, quand il nous a rejoints dans ID Genève. Et puis, ça a duré quelques heures. Et puis, effectivement, je me réjouis de pouvoir passer encore du temps avec lui parce que c'était quand même... en fait, c'est là où c'est quand on a les gens en face et puis qu'on parle de la vie dans l'ensemble, des valeurs personnelles. Je pense que là, on voit le vrai visage des gens. Et puis, il y a aussi les vraies implications ou des démarches qu'ils défendent et puis le sérieux qu'il y a derrière. Du coup, ouais, c'était vraiment très, très agréable. Et puis, on a beaucoup rigolé. Et puis... Du coup, je connais un petit peu son enfance aussi, entre-temps. Du coup.
Génial. Génial. Quand tu le vois, tu m'invites.
Ah. Oui, d'accord. Je vais essayer.
OK. Alors, merci beaucoup, Singal. C'était super de parler avec toi aujourd'hui. Et je te dis à tout bientôt avec Léo.
Ben, merci beaucoup d'être passé chez nous.
Merci d'avoir écouté Autour de nous, le podcast sur l'économie circulaire en action. À bientôt pour une nouvelle histoire inspirante pour construire un meilleur demain.